2 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 7, page 1355 dans les Bibles bleues. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Amen.
Bonjour à tous. Merci de votre accueil ce matin. Un grand privilège pour moi. Pour mon 7e anniversaire, mon père m'a offert ma première Bible. C'était en 1953, si vous voulez faire le calcul. Je vois qu'il y en a qui le font déjà. Sur la page de garde, il a écrit ces mots inoubliables. 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 35 ans plus tard, j'ai donné pour ses 7 ans sa première Bible à mon propre fils, que vous connaissez. Je ne sais pas si tu as encore cette Bible, Mathieu. Et j'y ai écrit ce même verset. S'il est assez naturel pour un père d'exhorter son enfant à être fort dans l'adversité, la force dont il est question ici est particulière. Il s'agit d'être fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ, nous y reviendrons. Je vous propose 3 verbes pour résumer ce passage, tirés directement du texte. 3 verbes, d'ailleurs ce n'est pas un scoop puisque vous les avez dans les notes. Ces verbes sont se fortifier, transmettre et endurer. Se fortifier, transmettre, endurer. Méditons brièvement sur ce premier verbe, se fortifier. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, ou sois fort, ou sois fortifié, selon les traductions. Excusez-moi. Ça, c'est l'inconvénient d'utiliser un iPad pour les sermons. J'enlève le volume. Merci. Bon. Cette exhortation de Paul à Timothée est très affectueuse. Et il le dit dans un contexte de persécution et aussi de défection de la foi. Nous le voyons dans le chapitre 1 de 2 Timothée. Paul rappelle ici que le ministère chrétien n'est pas le résultat de la seule force humaine, mais il dépend plutôt, comme il le dira dans 2 Corinthiens, du paradoxe spirituel de force dans la faiblesse. Ce verbe du verset 1 nous pose un petit problème de traduction. J'y ai fait allusion déjà. En effet, on peut traduire « fortifie-toi », ça donne l'idée d'une force intérieure dont on est acteur, en partie, en tous les cas. Mais aussi, le langage, la grammaire peut nous laisser traduire « sois fortifié » ou « laisse-toi fortifier ». Donc, les commentateurs discutent beaucoup dans les commentaires sur ce point. En tous les cas, l'idée ici est de se laisser continuellement fortifier, c'est-à-dire de retourner régulièrement à la source de la grâce. Mais ce recours ne court-circuite pas notre responsabilité humaine. Alors nous autres évangéliques, nous insistons beaucoup dans notre piété, dans nos cantiques, sur le rôle de la grâce dans la justification. Si vous faites un peu le tour des cantiques, vous verrez ça assez clairement. Nous sommes sauvés par la grâce, Jésus nous a sauvés, il nous a rachetés, etc. etc. Et c'est fondamental, c'est la sola gratia de Martin Luther, de la Réforme, seule la grâce. Mais cet accent sur la grâce, cette grâce qui rend juste devant Dieu, évoque seulement un aspect de la grâce dans l'Écriture. Car la grâce est un de ces mots qui est un bijou à facettes multiples. Fort heureusement pour nous, la grâce ne s'arrête pas à la conversion, mais elle continue. Elle continue d'être à notre disposition, notre vie durant. Se fortifier dans la grâce, c'est d'abord avouer notre faiblesse. Une auteure récente a bien dit « Il n'existe aucune formation universitaire qui prépare à l'impuissance. » Et c'est ici que nous avons une traduction imagée dans la Bible du Semeur, qui traduit ainsi « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce » qui nous est accordé dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces. Moi, j'aime bien les jeux de mots. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je vais vous en infliger un. Hein. Là, ce n'est pas moi. Puisons nos forces dans le puits inépuisable de la grâce, au lieu de nous laisser épuiser par le seul recours à nos propres ressources humaines. Puisons nos forces dans le puits inépuisable de la grâce, au lieu de nous laisser épuiser par le seul recours à nos seules ressources humaines. Ce genre de jeu de mots, mes filles, si elles étaient là, diraient « Encore une blague de pasteur ». Mais ce n'est pas une blague. C'est vrai. Puiser ses forces dans la grâce ou par la grâce s'applique au ministère, mais aussi à la vie du chrétien en général. Personne n'est exclu de la portée de cette vérité, que ce soit sa piété, sa vie conjugale, sa famille, ses épreuves. Il s'agit ici d'avoir recours au puits de la grâce pour tous. Se fortifier par la grâce. Et remarquons le lien qui est implicite entre les trois verbes. Nous nous fortifions, nous nous laissons fortifier par la grâce pour pouvoir transmettre et aussi pour endurer. Agnès et moi avons eu amplement l'occasion de retourner au puits de la grâce, en particulier lors de la longue bataille pour la vie de notre fille Anne, qui est raconté dans le livre d'Agnès qui s'appelle « La vie est un souffle ». Nous avons dû y puiser quotidiennement au bord de l'épuisement pendant une année lors des trajets quotidiens entre Marne-la-Vallée et l'hôpital Necker, tout près. Je suis devenu provincial, hein. Françoise Pillon, qui je crois que sera là ce soir, est témoin de cette époque parce qu'elle était étudiante à l'Institut biblique de Nogent à l'époque. Et elle se souvient que pendant toute une année académique, j'enseignais le cours d'histoire de l'Église à l'Institut et il y avait deux périodes séparées par une pause d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc je donnais la première heure. Et pendant la pause, j'allais téléphoner au service à l'unité des soins intensifs de Necker pour savoir si notre fille était toujours en vie ou pas. Et alors, juste avant la pause, un des étudiants priait pour ce coup de fil, pour moi, pour la fille en particulier. Et puis j'allais téléphoner et je suis revenu et il voyait sur mon visage que elle était encore en vie. C'est une histoire qui se termine bien parce qu'Anne et sa famille habitent au Maroc aujourd'hui, servent le Seigneur là-bas. Trois petits garçons avec son mari Isaac. Nous avons dû continuer de puiser dans le puits de la grâce pendant notre quinzaine d'années bien mouvementées au Liban, que ce soit dans un contexte de bombardement dans la guerre de 2006 ou pour faire face au moment de grande détresse de notre fille adoptive lorsqu'elle était adolescente. Et je suis sûr ce matin qu'il y a parmi vous bien des personnes qui ont vécu des épreuves semblables, peut-être même plus dures. Se fortifier dans la grâce. Mais cela nous mène au deuxième verbe, transmettre. Verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce passage très connu a été beaucoup commenté. Il évoque une chaîne de générations de responsables d'Église. Et lorsqu'on y réfléchit, tout groupe humain qui désire être pérenne doit se préoccuper de la formation de ses cadres et de ses membres. Sinon, ce groupe ne restera pas pérenne. Et l'Église n'échappe pas à cette règle. Et l'apôtre Paul le savait pertinemment, et d'autant plus que lorsqu'il écrit ces mots, il sait que son heure de départ est proche, son heure de départ de cette terre, et il désire bien passer le flambeau. Cette longue chaîne de générations est bien en vue ici, de Christ à Paul, de Paul à Timothée, de Timothée aux personnes fidèles, et de ces personnes-là, fidèles parce qu'elles n'ont pas fait défection devant la persécution évoquée dans le chapitre 1, de ces personnes fidèles qui passent le flambeau à d'autres, c'est-à-dire aux générations après elles. Que signifie transmettre ? Ça paraît assez évident. Mais dans ce passage en particulier, ce terme indique le fait de confier un dépôt à quelqu'un d'autre qui le gérera avec fidélité. Cela sous-entend bien gérer le dépôt, mais aussi le protéger. Le protéger soigneusement et puis le transmettre. En effet, protéger la foi sans la transmettre, c'est-à-dire la garder enfermée, n'est pas mieux que transmettre la foi sans la protéger. Outre la nécessaire communication de l'Évangile, qui est la base de tout, c'est la mission de Dieu qui comprend également l'effort de qualifier les responsables des églises et les membres plus généralement, afin que leurs églises soient stables, adultes, confiante et croissante en qualité et en quantité. La mission de Dieu va au-delà de l'évangélisation, commence avec l'évangélisation, mais continue. Notons que les personnes à qui l'on transmet le dépôt sont qualifiées dans ce passage de fidèles et capables. C'est préférable aux infidèles et aux incapables, n'est-ce pas ? Fidèle et capable, ou comme on dirait aujourd'hui, compétente. Et ces compétences comprennent en particulier celles d'enseigner l'Église et d'enseigner au sein de l'Église. Cela est mentionné par Paul à trois reprises dans les lettres dites pastorales, mais cet enseignement peut avoir lieu dans plusieurs cadres. L'école du dimanche, les petits groupes, ou des situations de 1 à 1, ce n'est pas limité à l'activité menée par les pasteurs. Je vais le marteler cela un petit peu, puisque cette exhortation de transmettre s'adresse à chacun d'entre nous. C'est vrai que cette exhortation se situe dans les lettres dites pastorales, Et on a l'impression peut-être implicitement que Paul s'adresse à ceux qui ont cette vocation particulière d'être responsables d'Église. Mais il me semble que le propos de Paul s'élargit aisément aux membres des conseils d'Église. Transmettre, ça implique aussi de croire au devenir de nos enfants, de nos jeunes et de nos jeunes responsables. C'est les qualifier, les équiper pour le service. C'est leur donner envie d'être des personnes fidèles leur vie durant. Et l'Église locale, j'en suis convaincu, qui dépense temps, énergie et finances pour former des responsables, accomplira une œuvre porteuse d'avenir. C'est un investissement dans sa pérennité. Cette transmission peut avoir lieu à l'école du dimanche, au culte et réunions d'église, mais aussi plus généralement dans les services de l'église, même les moins visibles. Par exemple, lorsque votre enfant vous voit donnant du temps généreusement pour prendre votre part au ménage de l'église, ne pensez-vous pas que vous lui transmettez une valeur importante? Il y a un auteur qui l'a dit, je pense avec qualité, lorsqu'il a dit « Notre héritage, notre legs dans le ministère, ne sera pas principalement ce que nous aurons laissé derrière nous, mais plutôt ceux et celles que nous aurons laissés derrière nous. » C'est cela notre legs dans le ministère. C'est ça notre vocation de transmettre. Plus que jamais, septuagénaire que je suis, cette phrase et surtout ce passage résonne dans mon cœur, me motive et me donne de l'énergie. Et Dieu sait, à mon âge, j'en ai besoin d'énergie. Cette énergie de cette vocation-là, la vocation de transmettre. Et enfin, peut-être le troisième verbe dont on serait bien passé, endurer. Les deux premiers, oui, mais souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, dit Paul à Timothée, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Ce verbe endurer, c'est la traduction de la Bible du Semeur, mais qui est rendu dans le second 21, souffrir. Et force nous est de constater que endurer fait partie intégrante de notre mission dans l'Église aussi. La lecture des évangiles et des épîtres le montre amplement. Mais Paul rappelle à Timothée, fort heureusement, qu'il n'a pas à endurer seul. Lorsqu'il dit « souffre avec moi » ou autre traduction « prends ta part de souffrance ». Nous sommes appelés à être solidaires dans l'endurance, dans l'épreuve, dans le combat de la vie chrétienne. Et donc Paul a approfondi cette notion d'endurance en utilisant ces trois illustrations, le soldat, l'athlète et l'agriculteur, pour mettre en évidence l'importance de la discipline, de la consécration et de la persévérance dans le ministère. Comme dit Pasteur Samuel Benetro, ces trois images montrent que dans tous les domaines, on n'obtient rien sans effort, dépouillement, résolution, persévérance. Ce ne sont pas des mots qui sont très à la mode aujourd'hui. Néanmoins, bibliquement, ce sont des mots fondamentaux. Et dans chacune des images, l'apôtre laisse transparaître une récompense. pour le soldat discipliné et concentré, la satisfaction de son officier supérieur. Pour nous, c'est le Christ, bien entendu. Pour l'athlète, la satisfaction du prix remporté, comme le couronnement d'un long entraînement et la course menée selon les règles. Pour l'agriculteur, la satisfaction d'une belle récolte après avoir travaillé dur et longtemps au milieu des aléas de la météo et de la vie. En effet, à travers l'épreuve et l'endurance qui en résulte, Dieu construit en nous un message de vie. Ce message est particulier à chacun. Nous sommes en quelque sorte des inscrits dans un cursus qui dure la vie entière, dans l'école de la grâce. Le Saint-Esprit est le directeur des études de l'école de la grâce. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Je le redis, cette endurance n'est pas le monopole, comme les deux autres verbes d'ailleurs, des seuls pasteurs, missionnaires ou autres serviteurs, entre guillemets, à temps plein. Car cet appel s'adresse à tout disciple, à tous ceux et à toutes celles qui désirent servir le Seigneur et son Église. L'apôtre nous exhorte à puiser encore et encore et encore dans la grâce, plutôt que de chercher notre espérance ailleurs. Maintenant, nous avons bouclé la boucle. C'est parce que nous sommes fortifiés que nous pouvons transmettre. Et en transmettant, nous pouvons endurer. Au-delà de la proclamation de la bonne nouvelle qui est essentielle, tâchons de léguer à notre Église celles et ceux que nous aurons ainsi qualifiés pour le service de Dieu. Quels que soient vos dons particuliers, vos ministères particuliers, dans l'Église ou ailleurs, et même si vous êtes encore jeune, réfléchissez à la transmission, au passage de relais de la foi. Notre legs, notre héritage n'est pas principalement ceux, c'est eux, que nous aurons laissé derrière nous, mais ceux et celles que nous aurons laissés derrière nous. Soyons donc encouragés, ne relâchons pas l'effort, continuons à être les chandeliers de Dieu dans notre ville, notre région, en France, dans les pays limitrophes et jusqu'aux extrémités de la terre. Et n'oublions pas qu'il n'y a rien de tel pour allumer une chandelle que de l'allumer à une autre chandelle, la vôtre. Fortifiez-vous, transmettez et endurez par sa grâce.